Merci beaucoup pour cette invitation renouvelée. Et je me réjouis de vous présenter quelques idées concernant la célèbre norme fondamentale, la grande norme. Donc, l'ambiguïté théorique de la norme fondamentale, la dite grande norme, attire depuis toujours chez ceux qui s'occupent de la théorie pure du droit de Ketzen une grande attention et une critique à peine moins grande. Il est aisé d'expliquer pourquoi le concept de la grande norme aimante l'attention des philosophes qui s'intéressent aux questions juridiques. Il soulève en effet la question de l'ultime fondation du droit. Le fondement de la validité sert de preuve caractéristique de l'existence de droit et peut rien que pour cela s'assurer de l'intérêt de tous les philosophes du droit. Ketzen semble ici se ranger au sein de la masse de ceux qui ont contribué à montrer la voie vers l'essence du droit, vers son fondement ultime. Or, ce que Ketzen, avec la théorie de la grande norme, fournit comme réponse au problème de la fondation et de la régression de la validité, fait certainement figure de provocation pour celui qui pose des questions philosophiques. À place d'une fondation, Ketzen se retire sur une supposition, qui n'est rien d'autre qu'un refus d'une fondation ultime. À la place d'une validité catégorique, une validité seulement hypothétique. La solution de Ketzen à ces problèmes est une norme fondamentale qui n'est pas une véritable norme, mais une norme simplement pensée. Qui doit être supposé si et seulement si l'on veut parler d'un ordre juridique à propos de phrases qui se réfèrent les unes aux autres. Voilà qu'il y soit l'attente de celui qui attendait une réponse substantielle et catégorique. Selon toute vraisemblance, le concept de Grundnorm prépare aux philosophes du droit plus de chagrin que de joie. Pour continuer, il n'existe pas une conception de la norme fondamentale au singulier. Au cours de presque un demi-siècle, Ketzen accorde à la grande norme au moins trois caractérisations incompatibles qui ne sont pas toujours distinguées les unes des autres. Dans les années 20, il la tient pour une supposition hypothétique. Dans la première édition de la théorie pure du droit, dans les années 30, et dans la seconde édition des années 1960, la Grundnorm se présente comme une condition logique transcendantale. Et finalement, dans la théorie générale des normes, publiée de manière posthume en 1979, elle mue pour devenir une véritable fiction au sens de la philosophie du « comme si » de Weininger. Comme Ketzen lui-même ne réfléchit qu'insuffisamment à cette transformation, ou du moins l'explique insuffisamment, de multiples réflexions et spéculations circulent, d'une part sur chacune de ces variantes, d'autre part sur les motifs de ces changements de concept. Les études relatives aux transformations de la Grundnorm ont essentiellement pour objet le jeu de classification apprécié les philosophes. On se demande si, et le cas échéant, dans quelle mesure et à quelle période, Ketzen était kantien ou au moins néo-kantien, et alors néo-kantien de l'école de Heidelberg ou de Marburg. Avec ses références à Kant, Hermann Cohen et Hans Weininger, Ketzen entre dans l'arène de la philosophie et est traité en conséquence. Il semblerait presque que lorsque Ketzen se risque sur le terrain des philosophes professionnels, son instinct et son jugement ne le guident pas de manière sûre. En effet, le fait que Ketzen modifie plusieurs fois la conception de la norme fondamentale pourrait être interprété comme le signe d'un certain caractère aléatoire, d'un embarras, d'une incertitude et d'un manque de clarté. Ce qui était pensé comme la spectaculaire clé de voûte du bâtiment normativiste positiviste de la théorie pure de droit se révèle, à y regarder de plus près, être le talon d'Achille philosophique du concept kelsenien de la validité du droit. Lorsqu'on s'interroge sur la nature et la valeur de la théorie de normes fondamentales, une question d'une importance à ne pas sous-estimer est celle de se placer dans le système de la théorie pure du droit. Stanley Potson décrit la théorie de la norme fondamentale comme le cœur et l'âme de la théorie pure du droit de Hans Kelsen. La grande norme est ainsi le générateur qui emplit de vie et anime l'ensemble du système. De ce point de vue, la norme fondamentale s'apparente à l'élément central de la théorie pure du droit, celui qui, en quelque sorte, dirige et maintient le système, qui marque son identité. Cette appréciation de la théorie de la grande norme a un certain poids, et au moins la première apparence de son côté. Et pourtant, si l'on se laisse guider par la perspective interne de la théorie pure du droit, les doutes apparaissent sur le bien fondé de la thèse du cœur et de l'âme. Trois indices qui partent contre cette catégorisation vont être brièvement expliqués. L'un est généalogique, l'autre systématique et le dernier téléologique. Du point de vue du développement historique, Kelsen ne construit pas sa théorie pure du droit en s'orientant vers la grande norme, ni en partant d'elle, ni autour d'elle. Bien au contraire, la théorie de Kelsen, à ses débuts, ne connaît pas encore de normes fondamentales ou d'équivalents fonctionnels. La position qui sera occupée quelques années plus tard par la grande norme est encore inoccupée, ou peut-être plus précisément, elle est encore inexistante. Kelsen pose les fondements de sa théorie pure de droit en 1911 dans sa thèse d'habilitation, les Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz, donc les problèmes principaux de la théorie juridique de l'État développés à partir de la théorie de la proposition juridique, se consacre exclusivement à la statique juridique. Ils analysent la norme politique juridique, pour ainsi dire, uniquement au repos. La dynamique juridique, qui montre la norme juridique dans son contexte de création, ne sera pleinement développée que quelques années plus tard, avec la découverte progressive de la construction par degrés de l'ordre juridique, le Stufenbau der Rechtsordnung. Dans ses Hauptprobleme, Kelsen conçoit encore le droit à travers ce que l'on pourrait appeler le solipsisme de la loi. La loi représente la seule forme de propositions juridiques scientifiques non pertinentes. Le processus de la législation comme, en un certain sens, celui de l'exécution de la loi, reste volontairement hors de considération. En se référant à Georg Jelinek, Kelsen assure que, je cite, « le problème de l'apparition et de la destruction du droit est d'une nature métajuridique ». Fin de citation. Il considère que, dans la perspective de la science de droit, la législation est, citation, « le grand mystère du droit et de l'État ». La question d'un fondement juridique à l'ordre juridique apparaît dès lors, comme il dit, absurde. Quant au phénomène juridique infra-législatif d'exécution de la loi, il ne forme pour lequel c'est des autres problèmes que des actes d'application dénués d'indépendance par rapport à la loi, qui se contentent de faire, citation, valoir l'obligation juridique déjà édictée par la loi. Une telle conception du droit n'a tout simplement pas besoin d'une norme fondamentale qui cloue la régression de validité. Le développement de la grande norme dans les années 1913 à 1930 est aussi bien l'expression de la conséquence de l'élargissement de la conception nomostatique à la nomodynamique. Confronté à des problématiques issues de la pratique juridique et stimulées par les travaux de ses élèves, en particulier Adolf Julius Merkel, Alfred Ferdross et Leonidas Pitamik, Kelsen inclut dans son analyse scientifique du droit les phénomènes situés au-dessus et en dessous de la loi, c'est-à-dire d'un côté la Constitution et de l'autre les normes juridiques infralégislatives, qu'elles soient abstraites et générales ou concrètes et individuelles. De cela résulte le concept de constitution par degré de l'ordre juridique, je trouve pas direct en temps, dans lequel les normes juridiques possèdent une double face juridique. Elles sont d'un côté conditionnées et de l'autre conditionnantes. Tandis que la constitution du droit positif occupe encore dans un premier temps la place de la grande norme non conditionnée et unificatrice, la question de la validité des normes juridiques et à sa suite la question de la norme fondamentale apparaît uniquement avec l'inclusion du droit international à partir de 1920 au centre des efforts pour une théorie pure du droit. On ne saurait affirmer sérieusement que ce n'est qu'à partir de là que la théorie du droit dispose d'un cœur et d'une âme. Sous des auspices systématiques, il est également difficile de reconnaître le rôle prétendument clé de la théorie de la grande norme pour le concept général de la théorie pure du droit. Comme on l'a déjà évoqué, le développement du concept de la norme fondamentale est étroitement lié, tant d'un point de vue chronologique que systématique, à l'élargissement de perspectives de la seule statique du droit à la dynamique juridique. La théorie de la norme fondamentale ne reçoit pas sa signification spécifique et sa place particulière par le biais de l'analyse nomostatique, mais seulement de l'analyse nomodynamique, dans le cadre de la théorie de la construction par degré, qui décrit le rapport de transmission de validité entre normes et ainsi le processus de validité au sens d'un processus de test d'appartenance à l'ordre juridique. Comme cependant, selon Kelsen, l'analyse nomodynamique complète mais ne remplace aucunement l'analyse nomostatique, la théorie de la norme fondamentale ne possède une pertinence digne d'être mentionnée que pour l'une des deux faces de la théorie pure du droit. Et troisièmement, la place et la fonction de la théorie de la norme fondamentale dans l'architecture générale de la théorie pure du droit contredisent également la thèse du cœur et de l'âme. En effet, la théorie de la grande norme ne compte pas parmi les axes principaux qui confèrent sa structure à la théorie pure du droit. Elle n'est pas le centre et le point de départ d'une architectonique générale qui en découle. Elle est avant tout toute issue de la volonté de mener de manière conséquente une théorie du droit à l'attention de la pratique juridique. Kelsen a besoin de la grande norme et la développe pour parfaire l'architecture de la théorie pure du droit. Ainsi, Kelsen ne conçoit pas la théorie pure du droit pour procurer à la grande norme qu'il aurait d'emblée élaboré un seul de résonance suffisant. Il conçoit au contraire la norme fondamentale pour combler un vide conceptuel créé par son rejet tant de la fondation métaphysique transcendante que de la fondation empirique causale de la validité. La théorie de la grande norme a donc un caractère instrumental par rapport à la théorie pure de droit. Elle est un moyen dans le but de former et de formuler un positivisme juridique conséquent. Tandis que ce positivisme juridique conséquent fournit l'idée qui est à la base de la théorie pure de droit, la théorie de la grande norme forme seulement l'un des éléments nécessaires, mais plus ou moins interchangeables de la construction. Cela explique aussi pourquoi les changements successifs dans la conceptualisation de la norme fondamentale n'emportent pas d'effet essentiel sur le concept structurel et fonctionnel du droit positif formulé par la théorie pure de droit. La théorie de Kelsen repose sur deux thèses de séparation, plus précisément sur la coïncidence des dichotomies entre le sein et le sollen, l'être et le devoir-être d'un côté, le droit et la morale de l'autre. Dans leur synthèse, elles forment le fondement invariable qui constitue l'identité de la théorie pure de droit. La démarche de Kelsen, en ce qu'elle se prononce contre une déduction vérifiable par la science du droit du Zoll à partir du Sein et du droit à partir de la morale, est normativiste et positiviste. Ainsi, Kelsen est-il renvoyé à deux questions déterminantes pour sa conception du droit. Comment la positivité du droit peut-elle être préservée si la validité d'un norme ne peut être fondée sur des faits, qu'on les appelle le pouvoir, la reconnaissance ou l'efficacité? Et comment peut-on en même temps affirmer la normativité du droit sans recourir à une déduction à partir de valeurs absolues, qu'on les appelle la raison, la justice ou Dieu? En d'autres termes, comment peut-on refuser simultanément à propos du droit la déduction du Zoll à partir du Sein et celle du droit à partir de la morale? La solution de Kelsen, qui lui permet de maintenir son rejet tant du naturalisme juridique que du moralisme juridique, réside dans la coïncidence d'un positivisme sans naturalisme et d'un normativisme sans moralisme. Kelsen écarte le positivisme juridique traditionnel parce que celui-ci commet l'erreur naturaliste. Il viole le principe selon lequel un Sollen ne peut être déduit d'un Sein. Il partage en revanche le point de vue positiviste selon lequel l'objet de la connaissance scientifique ne peut être que le droit positif posé par des hommes. De la sorte, cependant, l'existence juridique spécifique, c'est-à-dire la validité du droit, est liée d'une manière réglée par le droit lui-même sous la forme de conditions de création de droit à l'intervention ou à l'absence de certains actes comportementaux humains. Comme il s'agit de faits vérifiables empiriquement, la validité du droit est conditionnée par des faits. Mais attention, ajoute Kelsen, ces faits qui révèlent du Sein ne sont que la condition de la validité et non la validité elle-même qui est un Sollen. Fin de citation. Un comportement humain est donc une conditio sine qua non pour l'apparition du droit, mais pas une conditio per quam. En ce qu'elle insiste sur la positivité du droit au sens de son conditionnement factuel, la théorie pure de droit revendique avec raison être une théorie du droit radicalement réaliste. Citation de Kelsen. Parallèlement, la théorie pure du droit écarte la théorie du droit naturel, en particulier parce qu'elle viole, voire conteste l'axiome du relativisme axiologique et l'impossibilité de déduire le droit positif de la morale. En revanche, elle partage le normativisme régulièrement propagé par les représentants de la démarche juste naturaliste, en vertu duquel une norme ne peut avoir sa base de validité que dans une autre norme, un Sollen dans un Sollen. Cependant, selon une conception de la validité relationnelle qui s'appuie sur une théorie de la cohérence, seules les normes de la même sphère de validité, c'est-à-dire d'un système de validation identique, peuvent transmettre la validité spécifique. Pour les normes juridiques d'un ordre juridique concret, cela signifie que seules les normes juridiques du même ordre juridique interviennent comme fondement de validité. En résumé, Kelsen associe dans une nouvelle unité originale les éléments fondamentaux des deux démarches traditionnelles, le juste naturalisme et le juste positivisme. La théorie pure du droit se veut un normativisme sans, comme la théorie du droit naturel, glisser dans le moralisme juridique, et elle se veut simultanément un positivisme juridique sans, comme le positivisme empirique, sociologique ou psychologique, glisser dans le naturalisme juridique. Bref, c'est la coïncidence du normativisme sans son moralisme juridique et du positivisme sans naturalisme juridique qui fait le propre de la théorie pure du droit, son cœur et son âme, si l'on veut. Pour notre sujet, cela signifie que la précision de la place et de la fonction de la théorie de la Grundnorm doit partir du projet normativiste positiviste de Kelsen. Celui-ci forme le contexte déterminant pour celle-là. Sur cet arrière-plan, la place et la fonction primaire de la norme fondamentale au sein du concept de validité de la théorie pure du droit peuvent être clairement esquissées. Avec la théorie de la Grundnorm, Kelsen surmonte une difficulté devant laquelle le place sa démarche conséquente positiviste normativiste. En raison du normativisme non moraliste, une norme du droit positif ne peut recevoir sa validité que d'une autre norme du droit positif. Ce lien de déduction de norme à norme s'achève cependant, c'est la conséquence du positivisme juridique non naturaliste avec la première norme positive et historique, c'est-à-dire avec la norme de laquelle découle la validité de toutes les autres normes du même système de validation. De la sorte, apparaît un dilemme. Le fondement de la validité nécessite une norme, puisque Kelsen a d'emblée exclu de se référer à autre chose, en particulier à des faits. Mais par définition, cette première norme ne peut plus être tirée du droit positif et un recours à d'autres systèmes normatifs est également exclu par définition. La norme fondamentale sert donc à clore la régression de validité sans désavouer les deux axiomes principaux de la théorie pure du droit, son normativisme et son positivisme. En d'autres termes, le normativisme de Kelsen peut être lu comme le refus de fonder la validité sur des faits du sein, son positivisme comme le refus de fonder la validité sur des normes de la morale. La grande norme unit et renforce ces deux panostops au point ultime de la question de validité. Sa fonction principale, sa véritable raison d'être, est donc négative ou défensive. Le concept de validité doit, conformément à la prétention normativiste-positiviste, demeurer libre des fondements de validité métaphysique transcendants et empiriques causaux qui sont rejetés comme intenables. La norme fondamentale, en ce qu'elle exclut toute autre référence pour le fondement de la validité, renvoie le droit positif, faute de mieux, en quelque sorte à lui-même et affirme de la sorte rien de moins que l'autocréation du droit, c'est-à-dire l'autoconstitution de la validité qui est immanente au droit positif. Bien que Kelsen accorde au cours des années des formulations, des caractérisations variables à la Grundnorm, il est un point sur lequel il est parfaitement cohérent tout au long de son œuvre. La norme fondamentale concerne exclusivement le fondement de la validité et non le contenu de validité du droit positif. Je cite, « La norme fondamentale fixe simplement le fondement de validité et non le contenu de validité du droit positif. Ce fondement de validité est complètement indépendant du contenu de validité. La grande norme laisse au processus de création positive du droit, fixé par la concession, la tâche de déterminer le contenu du droit positif. Là réside la fonction propre de ce processus, autocréation. Comme la fonction de la Grundnorm, son effet est niant ou négatif. La norme fondamentale montre là aussi sa qualité de pare-feu. Elle est un concept de non-affectation matérielle et protège le processus d'autocréation, d'autopoésis, du droit positif contre des influences extérieures non sollicitées. La grande norme, ou le choix de celle-ci, n'a pas d'influence sur le contenu des normes juridiques, c'est-à-dire sur l'état concret, contingent, du droit positif. On ne saurait sous-estimer la portée de cette conséquence. Elle signifie en effet que les questions relatives à l'état concret des normes de droit positif trouvent leur réponse exclusivement dans les normes de droit positif et jamais au moyen d'une référence non commandée par le droit positif à des phénomènes extra-juridiques, qu'ils soient de nature normative ou factuelle. Si l'on s'en tient à l'aspect négatif de la grande norme, qui veille à ce que la validité du droit ne soit fondée ni sur des éléments métaphysiques transcendants, ni sur des éléments empiriques ou causaux, alors le concept et les présentations qu'on fait Kelsen dans ses différentes phases de publication sont cohérents et consistants. Des ambiguïtés, des approximations et des inexactitudes surviennent en revanche dès que l'on cède à la tentation d'attribuer à la norme fondamentale, à côté de sa fonction et de ses effets, pour ainsi dire, passifs, défensifs, négatifs, déconstructifs, une fonction et des effets, pour ainsi dire, actifs, constructifs, positifs. Certaines affirmations de Kelsen lui-même sur la relation entre la norme fondamentale et les droits positifs sont à cet égard paradigmatiques. Il figure dans son œuvre de maturité la seconde édition de la théorie pure du droit de 1960, dont les paragraphes 34 et 35 et sont ici donnés dans leur ordre original de succession, et vous les pouvez voir sur votre handout. Deuxième page. Je cite, « La norme fondamentale est la source commune de la validité de toutes les normes qui appartiennent à un seul et même ordre. Elle est le fondement commun de leur validité. L'appartenance d'une norme à tel ou tel ordre a sa source dans le fait que le fondement ultime de sa validité est la norme fondamentale de cet ordre. C'est cette norme fondamentale qui fonde l'unité d'une pluralité de normes par le fait qu'elle représente le fondement de la validité de toutes les normes appartenant à cet ordre. Ce qui caractérise le type dynamique d'un système de normes, c'est le fait que la norme fondamentale présupposée ne contient rien d'autre que l'insertion d'un fait créateur de normes, l'habilitation d'une autorité créatrice des normes, ou, cela revient au même, une règle qui détermine comment doivent être créées les normes générales et les normes individuelles de l'ordre qui repose sur cette norme fondamentale. La norme fondamentale se borne à déléguer une autorité créatrice de normes, c'est-à-dire à poser une règle conformément à laquelle les normes de système doivent être créées. Si l'on pose la question du fond de la validité d'une norme juridique appartenant à un ordre juridique déterminé, la réponse ne peut consister qu'à la rapporter à la norme fondamentale de cet ordre juridique. Autrement dit, elle réside dans l'assertion que cette norme a été créée conformément à la norme fondamentale. Et ultérieurement, l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice hiérarchisé formé de plusieurs couches de normes juridiques. Son unité résulte de la connexion entre éléments qui découlent du fait que la validité d'une norme qui est créée conformément à une autre norme repose sur celle-ci, qu'à son tour, la création de cette dernière a été elle aussi réglée par d'autres qui constituent à leur tour le fondement de sa validité. Et cette démarche régressive débouche finalement sur la norme fondamentale, norme supposée. La norme fondamentale hypothétique, en ce sens, est par conséquent le fondement de validité suprême qui fonde et scelle l'unité de ce système de création. Ici, la norme fondamentale n'est pas exclusivement lue à partir de sa signification passive de clôture de la régression de validité. Elle apparaît tout au contraire comme le sommet ou la base de l'ensemble de l'ordre juridique qui met tout le reste en mouvement, la ligne de perspective vers laquelle tout se dirige et de laquelle tout provient, le cœur et l'âme. Le mode de présentation choisi par Kelsen apporte cependant davantage de questions que de réponses. Au centre de toutes les interrogations se trouve la distribution des rôles entre, d'un côté, la norme fondamentale, la concession au sens juridico-logique, comme dit Kelsen, et de l'autre, la concession historiquement première, au sens du droit positif. Laquelle de ces deux normes fonde l'unité d'une pluralité de normes et en fin de compte l'unité et l'identité de l'ordre juridique et donc l'ordre juridique lui-même? Laquelle des deux est le fondement commun de validité de toutes les normes qui appartiennent à un seul et même ordre? La norme fondamentale fait-elle partie du rapport régressif que l'on nomme construction par degrés, le Stufenbau? Que signifie l'affirmation que la norme fondamentale institue le premier fait créateur de normes, qu'elle habilite ou délègue la première autorité normative? La validité d'une norme suppose-t-elle sa conformité à la Grundnorm? Mais un tel raisonnement permet-il de maintenir de manière conséquente et consistante le concept de non-affectation matérielle? Il est permis d'en douter. Pour un Kelsenien. Tous ces points d'interrogation trouvent en fin de compte leur origine dans la lecture active du concept de norme fondamentale. La Grundnorm n'est plus un simple butoir, un panneau qui signale une impasse. Il s'agirait sinon de la lecture simplement passive, laquelle provoque visiblement chez beaucoup un horror vacui qui pousse un remplissage actif du vide passif. De la sorte, la norme fondamentale est promue, ou devrait-on dire qu'elle est transformée en acteur. Elle intervient, pour ainsi dire, activement dans les événements relatifs à la validité, que la théorie pure du droit conçoit de manière dynamique. Elle se place aux côtés de la conception au sens du droit positif, comme son pendant logico-juridique. Elle pose, elle habilite, elle délègue, elle forme le fondement ultime de validité. C'est à elle qu'aboutit la construction par degrés. Par conséquent, elle est une norme parmi les normes. Elle possède des fonctions, des effets semblables aux autres normes, même si elle a le statut particulier d'être supposée ou simulée. En y regardant de plus près, elle entre dans une concurrence de fonctions et d'effets avec la constitution historiquement première, concurrence que Kelsen n'a pas résolue de manière convaincante. Cela apparaît particulièrement clairement dans les passages pertinents de la General Theory of Law and State de 1945. Je cite, traduction française, « Toutes les normes dont nous pouvons retracer la validité jusqu'à une seule et même norme fondamentale, forme un système de normes, un ordre. Parce qu'elles constituent leur source commune, la norme fondamentale et les liens entre toutes les normes dont un ordre se compose. On établira qu'une norme appartient à un système de normes donné, à un ordre normatif donné, qu'en s'assurant qu'elle tire sa validité de la norme fondamentale constituant l'ordre. Une proposition d'être est vraie parce qu'elle concorde avec la réalité de l'expérience sensible. une proposition de devoir être, pardon, est une norme valide seulement si elle appartient à un système déterminé de normes valides, si elle est dérivable d'une norme fondamentale supposée valide. Dans chacune de ces phrases se pose la question de savoir si Kelsen caractérise là vraiment la fonction et les effets de la norme fondamentale, ou plutôt de la construction historiquement première. Ce n'est pas sans raison que Herbert Hart a reproché au concept de la Grundnorme de n'être qu'un redoublement inutile, needless reduplication, de ce que Kelsen lui-même a désigné comme la construction historiquement première. On a déjà expliqué que dans la lecture passive de la Grundnorme possède une fonction en effet propre et donne à voir ce qui ne peut être perçu autrement et ne constitue donc nullement une needless reduplication, un redoublement inutile. Dans sa version active, en revanche, les associations trompeuses sont inéluctables. Les catégories employées par Kelsen pour décrire la norme fondamentale de normes et de validité, de concession et de construction par degré, d'habilitation et de délégation, insinuent d'une part que la Grundnorme possède, à côté et indépendamment de la construction historiquement première, une position autonome dans le processus régulier de production de droit, et d'autre part que ce rôle peut être saisi avec les mêmes catégories que celles qui servent à décrire et à apprécier le droit positif. Il est cependant permis de douter de ces deux affirmations. La cristallisation et la réification de la norme fondamentale due à sa conception active conduisent à des problèmes de délimitation et de dédoublement avec la conception historiquement première. L'exubérant concept actif conduit à oublier trop facilement que la norme fondamentale ne fait rien d'autre que de combler un vide pour l'invérifiable validité en droit positif de la constitution historiquement première. La sémantique employée conduit droit dans le piège de l'homonymie qui s'exprime dans le fait que l'on ne s'aperçoit pas, au moins que l'on ne fait pas attention à ce que derrière des dénominations identiques se cachent des significations conceptuelles différentes. En effet, la norme fondamentale n'est pas la même chose que la norme de droit positif. La validité hypothétique ou fictive n'est pas la même chose que la validité catégorique non fictive. La construction logique et juridique n'est pas la même chose que la construction du droit positif. Il ne s'agit pas ici de différences sémantiques de degré, mais de nature. Ces phénomènes nommés de la même manière émanent de systèmes de validation différents. En conséquence, d'autres notions telles que la construction par degré et le rapport de production, l'habilitation et la délégation développent une signification différente selon qu'ils sont employés dans le contexte de normes fondamentales ou dans un pur contexte de droit positif. Dépasser la lecture passive pour charger activement la théorie de la Grundnorme a donc un prix, celui d'introduire un obscurcissement et un risque de confusion, pour ne rien dire de plus grave, au sein du concept normativiste positiviste de la validité. Les problèmes de consistance liés à la lecture active de la norme fondamentale résulte donc d'un côté du manque de clarté de la relation entre la Grundnorme et la concession historiquement première et de l'autre de l'utilisation de notions ambiguës. Se pose alors la question de savoir si ces faiblesses sont nécessairement inhérentes au concept de norme fondamentale ou bien s'ils ne sont que l'expression d'une formulation exagérée. Il s'est déjà avéré très utile, dans le développement précédent, de se demander ce qui a conduit Kelsen à élaborer quelque chose comme la norme fondamentale. Et quel effet il voulait ainsi obtenir? Une stratégie similaire sera donc adoptée ici, et une troisième question sera utilisée pour libérer le noyau de la théorie de la grande norme de ses surcharges en partie superflues et en partie trompeuses. Cette question porte sur la détermination précise du lieu d'intervention de la norme fondamentale et pourrait être formulée de la manière suivante. Dans quelle relation de validité, à quel endroit, dans le rapport de production du droit, Kelsen a-t-il recours à la norme fondamentale? Cette question trouve une réponse facile et claire. Kelsen a besoin de la norme fondamentale exclusivement pour pouvoir fonder, en guillemets, la validité de la concession historiquement première. La concession historiquement première désigne la dernière norme identifiable du droit positif dans la régression de validité. Il s'agit de la norme de droit positif qui met en mouvement le rapport de production du droit positif. La validité de toutes les normes supplémentaires, ultérieures, de l'ordre juridique concerné, dérive de cette norme. Plutôt que de concession historiquement première, c'est la formulation de Kelsen, on pourrait ainsi parler plus simplement de la première norme du droit positif. Néanmoins, dès que cette première norme est identifiée dans son existence, c'est-à-dire fondée, en guillemets ou pas, dans sa validité, le système, nommé ordre juridique, est mis en branle. Ce mécanisme fermé d'autocréation est activé. Un recours à des facteurs externes au système est, pour les relations intra-systémiques, et la validité juridique n'est rien d'autre qu'une telle relation d'appartenance, non seulement inutile, mais également défendue selon la conviction normativiste positiviste. Avec la norme fondamentale, l'énigme du commencement, du Big Bang, du droit positif est résolue, en guillemets, résolue. Les chaînons manquants dans le processus de création du droit positif est nommé. Il s'agit, en d'autres mots, d'un concept qui ne vaut que pour l'heure zéro du droit positif. Pour filer la métaphore, dès que le temps du droit positif commence à courir, le temps de la norme fondamentale est écoulé. Plutôt que du point de vue prospectif de la théorie du droit, on peut le dire sous l'angle rétrospectif de la pratique juridique. Celui qui, à partir d'un cas concret, ne poursuit pas la question de la validité juridique au-delà de la constitution historiquement première, ne pourra pas rencontrer la norme fondamentale. Par exemple, celui qui, aux États-Unis, se contente, en guillemets, de poursuivre la question de la validité juridique simplement jusqu'à la concession fédérale du 17 septembre 1787, ne voit ni la nécessité ni la justification de réfléchir à quelque chose comme une norme fondamentale. L'efficace « we the people » du préambule associé à l'autorité incontestée des Founding Fathers, conclut le discours de la validité au sujet de la Constitution américaine de 1787, avant même qu'il n'ait commencé. Il faut le souligner, la fonction et l'effet de la norme fondamentale s'épuisent dans la réponse à la question de la validité de la Constitution historiquement première. La seule norme du droit positif avec laquelle la grande norme entre dans une sorte de relation directe de validité est la première norme, ou concession historiquement première. En dehors de cette unique relation, la norme fondamentale est dénuée de fonctions et d'effets. Kelsen l'exprime du reste clairement avec son concept de non-affectation matérielle, selon lequel la Grundnorm n'influence pas le contenu du droit positif. Des formulations comme celle qui affirme que, la, je cite, « le fondement de la validité de chaque norme juridique réside dans l'assertion de cette norme à être, que cette norme a été créée conformément à la norme fondamentale » obscurcissent la fonction et l'effet exclusif, au double sens du mot, de la Grundnorm. Une relation entre la norme fondamentale et les autres normes du droit positif, si on veut absolument parler ici de relation, n'existe que de manière indirecte, quand et dans la mesure où l'on inclut aussi dans l'examen de la chaîne des relations de validité, la validité de la constitution historiquement première de la première norme. Il n'existe en revanche pas de relation de validité séparée de celle-ci, autonome, directe et individuelle entre la norme fondamentale et les deuxième, troisième, etc. normes du droit positif. En conséquence, la norme fondamentale n'entre pas en concurrence quant à sa fonction ou son effet avec la constitution historiquement première. Ce qui fait tomber à plat le reproche de la needless reduplication, reproche qui devrait autrement être pris au sérieux. Cette localisation du lieu exclusif d'intervention de la norme fondamentale ouvre la voie à une conclusion supplémentaire. La relation entre la Grundnorm et la première norme, la Constitution est historiquement première, d'une part, et les relations entre normes du droit positif, entre la première norme et la deuxième norme, entre la deuxième norme et la troisième norme, etc., d'autre part, sont deux types catégoriquement différents de relations de validité. Parler indifféremment dans les deux cas de validité, voire rapporter les deux cas à un même rapport de validité, c'est-à-dire un rapport de déduction commun, transitif et unidirectionnel, nommé la conception de l'ordre juridique par degré, est ainsi une metabasis exalogenos. Or, c'est précisément ce qui se passe, ou au moins risque de se passer, lorsque la norme fondamentale est décrite comme le fondement ultime de validité ou le fondement de validité suprême d'un ordre normatif. Citation de Kelsen. Commençons par le point le plus évident et le plus important. La relation de validité entre la norme fondamentale et la première norme n'a qu'un caractère virtuel et non un caractère réel comme la relation entre les normes de droit positif. Kelsen ne laisse aucun doute à ce sujet. La norme n'est qu'une norme pensée. Elle ne peut par conséquent que conférer une validité virtuelle, une validité comme si, à l'esprit. À y regarder de plus près, la norme fondamentale fait ici exclusivement office de point de référence épistémologique, et ce parfaitement dans le sens de la lecture passive. Ce ne sont pas deux normes du même type qui se font face dans cette relation de validité. Rien que pour cette raison, il est trompeur d'affirmer que la norme fondamentale habilite ou délègue le pouvoir de création juridique. De plus, comme on l'a montré, la grande norme ne peut par essence entrer en relation directe de validité qu'avec une seule norme, la première norme, la constitution historiquement première. Une telle monogamie de validité n'est pas propre par essence aux relations des normes du droit positif. On peut, et même on doit, aller un pas plus loin. Si l'ensemble de la norme d'un rapport de production, c'est-à-dire d'un système de validation, d'un ordre juridique, se déduit de la première norme, alors c'est elle qui fonde l'unité de cet ordre juridique. C'est la constitution des États-Unis qui forme l'unité et l'identité de l'ordre juridique américain. En ce que la norme fondamentale transmet de validité à la première norme, elle transmet aussi la validité à l'ordre juridique en tant que tel. Au contraire, les relations de validité du droit positif concernent l'appartenance à l'ordre juridique, donc non pas la validité de l'ordre juridique, mais la validité dans l'ordre juridique. Non pas la validité du système, mais la validité dans le système, la validité systémique. Si l'on se rappelle encore une fois que la validité ne peut être affirmée que de manière relationnelle et relative, c'est-à-dire en lien avec un certain système de validation, il apparaît clairement que la question de savoir si une norme est valide par rapport à un certain ordre juridique d'un côté, et la question de savoir si cet ordre juridique est valide relativement à un point de référence appelé la norme fondamentale qui transcende nécessairement l'ordre juridique positif, conduisent à des affirmations de validité incommensurables et incomparables. De manière sensiblement différente, Herbert Hunt confirme également que la validité du système et la validité dans le système sont à distinguer strictement. Hart ne parle de validity qu'à propos de la validité dans le système. Et il la traite grosso modo de la même manière que Ketzen. En revanche, la validité du système n'est pas pour Hart, et contrairement à un normativisme conséquent, une relation de normativité, mais une question of fact, une question de fait. Dès lors, il ne parle pas de la validity of a legal system, mais de l'existence of a legal system. Dans la juste position de validité et existence. La rule of recognition of a legal system forme le authoritative criteria for the identification of valid rules of the system. Lorsque la discussion porte sur l'existence de la rule of recognition, il ne s'agit plus d'une question de validité et de normativité. Je cite, The question whether a rule of recognition exists and what its content is, i.e. what the criteria of validity in any given legal system are, is regarded as an empirical, though complex, question of fact. Cette déduction du Sollen à partir du Sein, que Hart dissimule avec le concept d'existence, existence, rend inutile la Grundnorm, que Hart peut et est poussé à rejeter comme une needless reduplication. Réduplication inutile. On peut laisser ici en suspens la question de savoir si l'existence de l'ordre juridique s'explique par des catégories du Sein, Hart, ou du Sollen, Ketzen, pour constater que Hart et Ketzen s'accordent sur le fait que l'existence ou la validité de l'ordre juridique représente quelque chose de catégoriquement différent de la validité d'une norme au sein de l'ordre juridique. Eu égard à la différence catégorielle entre la validité du système et la validité dans le système, il apparaît que la description, sur la base d'une lecture active de la norme fondamentale, de la validité comme appartenance hybride, en d'autres termes, du concept de validité de Ketzen comme un amalgame hybride des modes d'appartenance différents, conduit forcément à des malentendus. Comme on l'a déjà mentionné dans la pratique juridique, il n'apparaît pas de question dont la réponse nécessite ou même justifie de se référer à la norme fondamentale. À y regarder de plus près, cela n'est pas seulement une conclusion empirique. Celui qui participe au droit ne peut pas se poser une telle question sans quitter son rôle de participant. En effet, le participant, qu'il soit législateur ou juge, fonctionnaire administratif ou producteur privé de droit contractuel, n'existe que dans et en raison de l'ordre juridique concerné. Il est sa créature. Il ne peut mettre en doute l'existence normative la validité de l'ordre juridique, sans quoi il douterait du même coup de sa propre existence normative. C'est lui qui, en tant que participant au droit, nie l'ordre juridique, nie du même coup sa propre existence, ce qui constitue évidemment une contradiction performative. Franchement, en dehors du système juridique, il n'existe pas d'acteur du système juridique qui pourrait mettre en question le système. Et la question du système ne se pose pas dans le système. La théorie de l'avenant fondamental qui concerne uniquement la validité du système et non la validité dans le système est donc exclusivement un outil de la théorie du droit et non de la pratique juridique. Le concept de la Grundnorm ne peut être utilisé que dans les disciplines d'observation comme la théorie ou la philosophie du droit. Elle n'a en revanche pas sa place dans les disciplines de participation, en particulier l'activité doctrinale qui sont orientées vers le droit positif. Cette conclusion est trop facilement obscurcie par la lecture active de la norme fondamentale. Parmi les différents concepts de la philosophie du droit de Kelsen, c'est sa théorie de la norme fondamentale qui attire le plus l'attention et la captivité, l'imagination. 40 ans après, la remarque de Joseph Raz décrit toujours de manière parfaitement exacte l'état actuel de la discussion en philosophie du droit. Les développements précédents se sont néanmoins efforcés de montrer qu'il s'agit là d'un malentendu certes répandu. Il est incontestable que le concept kelsenien de norme fondamentale attire fortement l'attention et stimule intensivement l'imagination. Mais cela ne saurait conduire à conclure simplement à une fonction centrale et à un effet essentiel de la Grundnorm dans l'ensemble de la théorie pure de droit, voire à la présenter comme le cœur et l'âme de celle-ci. En effet, si l'on contextualise dans une intention historique critique la théorie de la norme fondamentale à la lumière du projet général normativiste positiviste Kelsen, cette mise en relation aboutit à une relativisation durable. La Grundnorm se dégonfle. Elle perd son prétendu aspect central pour devenir un simple instrument au sein de la théorie générale du droit de Kelsen, instrument dont la conception a été plusieurs fois modifiée. Elle ne fait plus l'office de clé de voûte, mais plutôt de roue de secours. Elle est, au véritable sens du mot, un bouche-trou dans le système du positivisme juridique normativiste, un remplissage improvisé pour couvrir un espace vide qui serait autrement visible. Fidèle à sa radicalité scientifique, à son objectif de mener, comme le dit Kelsen lui-même, une analyse qui examine les appréciations juridiques jusqu'à leur ultime supposition, Kelsen a besoin de la norme fondamentale et la conçoit simplement pour pouvoir maintenir jusqu'à sa conséquence ultime sa décision en faveur d'une conception normativiste positiviste du droit. Il en résulte sans doute une fonction et un effet significatif pour la norme fondamentale. Elle n'incarne rien de moins que l'autoréférence radicale du droit positif, en rejetant la métaphysique et la psychologie, la raison et la nature comme fondement de la validité du droit. Mais la Grundnorm se réduit à cela. Toute lecture active qui va au-delà de cette fonction du rejet des éléments étrangers et de renvoi à soi-même conduit nécessairement à des problèmes de consistance et de cohérence pour la théorie de Kelsen. La métaphore de la norme fondamentale devrait ainsi être compromise pour ce qu'elle est, une image de langue pour un ultime fondement normatif pensé, et non pour une réalité normative. De la sorte, on saisirait également qu'elle ne concerne que la validité du système en entier et non des normes isolées. Enfin, on tiendrait ainsi compte du credo de Kelsen, en vertu duquel une norme du droit positif ne peut trouver son fondement de validité que dans une norme du droit positif. Merci pour votre attention.